Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Avec donc Sophie, on va accueillir nos invités cet après-midi. Sophie, tout à l'heure, on sera avec Emma Ponthieux, qui est la capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon.
Ouais, c'est la première fois d'ailleurs que les deux équipes de France de hockey sur gazon sont qualifiées au JO à Paris.
Ça, c'est l'avantage de recevoir. Elle nous expliquera. C'est pas vraiment une qualification automatique, mais bon, ça y ressemblait un petit peu. Et puis notre petite chouchou qui nous a fait beaucoup de peine il y a de cela quelques semaines. En se blessant gravement lors des championnats d'Europe en salle. Ça se passait à Glasgow. Margot Chevrier, qui fait partie du team RMC et dont on suit la préparation pour ces Jeux. On n'a pas appelé depuis plusieurs semaines parce qu'on voulait la laisser récupérer de cette mésaventure qui lui est arrivée, cette fracture de la cheville. Ces images qui ont fait le tour du monde et qui ont vraiment fait beaucoup de mal à tout le monde, et surtout évidemment à Margot. Mais le moral est revenu, parce que c'est ça les championnes. Ça sait retrouver le moral rapidement et se fixer de nouveaux objectifs qui sont quasiment les mêmes qu'avant la blessure, puisque l'objectif, c'est évidemment d'être qualifié pour les Jeux et de bien figurer lors de ces Jeux. Elle est avec nous, Margot, et on la remercie. Bonjour Margot.
Salut Margot.
Bonjour à tous.
Bon Margot, déjà la voix, je sens que ça va. Hein,
c'est, oui, ça va beaucoup mieux.
Il y a du sourire dans la voix, il y a de la pêche, tout ça quoi.
Il y a eu 4 semaines, presque 5 d'ailleurs demain, et j'avoue qu'en 5 semaines on avance quand même très vite, même plus vite que ce à quoi je m'attendais, mais oui, les 10 premiers jours, j'étais vraiment confinée dans mon canapé à essayer de survivre à la maladie de la morphine et tout ça, donc ça n'était pas drôle.
Grosse douleur.
Et puis après, petit à petit,
ça t'a vraiment fait souffrir, Margot ?
Comment ?
Ça t'a vraiment fait, c'est une blessure qui fait extrêmement souffrir.
Ah bah, de toute façon, je pense que n'importe quelle fracture, où qu'elle soit située, c'est très douloureux. Après, en plus, moi, c'était une fracture déplacée, donc je vous laisse imaginer le tibia à 90 degrés, c'est assez soudain, donc sur le moment, on s'en rend pas trop compte. Par contre, 25 minutes après, il faut remettre la cheville dans l'axe, donc là, c'est sans anesthésie, sans endormissement sur le stade, donc voilà.
Eh ben, dis donc. Quelle histoire complètement dingue. J'ai vu des images où on te voit reprendre, c'est pas vraiment un entraînement, mais en tout cas, tu te sers de tes béquilles à la place de ta perche et tu essayes de pas de franchir des barres, mais de monter sur une barre. C'est ça, t'as déjà réattaqué l'entraînement, toi. T'as encore le plat, déjà, t'as été
un
nouvel entraînement, quoi.
D'après ce que tu dis.
Ouais, j'ai réattaqué l'entraînement à J17. Donc, c'est assez rapide et en même temps, j'ai eu 15 jours pour me refaire un peu une santé et une forme. Et puis après, l'avantage de la perche, c'est que c'est presque autant le haut du corps que le bas du corps. Donc pour l'instant, la jambe gauche, je m'en sers pas beaucoup, mais sur tout le reste, je peux faire quand même des abdos, des lombaires, du gainage, des développés couchés, ça j'en fais à la pelle. Donc voilà, vous m'avez vu faire un petit peu d'acrobatie, mais voilà, on a une grosse base de haut du corps, donc il faut en profiter.
Et toi, tu as la particularité de faire des études de médecine. Alors, est-ce que justement ces études-là
On peut pas lui raconter les bobards, quoi.
Voilà. Est-ce que ça t'aide justement à mieux comprendre ta blessure, la façon de la soigner aussi, et peut-être aussi la fragilité qu'elle peut générer pour le reste de ta carrière?
Oui, c'est sûr que, alors sur le moment, sur la prise en charge dans l'urgence, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que tu te rends très vite compte que c'est grave et que c'est pas le moment de tomber dans les pommes, en gros. Donc ça m'a vraiment aidé à rester lucide, je pense, sur le moment, ce qui est pas le plus simple. Et puis dans l'immédiat, alors c'est un peu l'inconvénient, c'est que tu sais ce qui va t'arriver, tu sais ce qui va pas être cool, et tu sais à peu près pour combien de temps t'en as et quels sont les pronostics. Donc ça, c'est la partie d'être étudiant qui est pas top. Et puis finalement, dans la prise en charge globale, je sais sur quoi je peux brûler des étapes, je sais quand est-ce qu'il faut que je fasse vraiment attention parce que c'est limite. Et pour l'instant, tout est respecté, tout va même plus vite que les plans prévus. Donc je pense que soit c'est le côté étudiante en médecine qui fait bien les choses, soit c'est tout simplement de la génétique. Hein. Je pense que c'est beaucoup de ça quand même.
Alors maintenant, la course contre la montre est engagée parce que les Jeux approchent à grands pas. Ta blessure se résorbe petit à petit, mais évidemment c'est un véritable chrono que tu as engagé. Comment ça va se passer? D'ici combien de temps va t'enlever ton plâtre? D'ici combien de temps vas-tu pouvoir recourir et ressauter? Est-ce que t'as déjà une estimation de tout ça?
Alors là, j'ai déjà recommencé à mobiliser la cheville avec les kinés, à renforcer un peu le mollet, la jambe gauche. Cette semaine, je vais recommencer à marcher petit à petit, reprendre l'appui avec la botte et les béquilles, mais quand même reprendre l'appui. Et à partir de mi-avril, je rentre au CERS à Cap-Breton, donc pour 3 semaines de rééduque intensive, où là, pour le coup, début mai, je vais repartir de Cap-Breton en marchant avec mes 2 baskets et en pouvant conduire. Donc, ça va être déjà une grosse étape. Ensuite, on va dire que le mois de mai, ça va être pouvoir reprendre les footings, un petit peu de course, un petit peu d'impulsion, voir où ça en est. Et à partir de là, c'est assez compliqué de dire parce que la réathlétisation, c'est très dépendant des gens. Ça dépend beaucoup de comment va réagir la cheville et faudra pas forcément s'écouter tout le temps parce que la douleur, on va dire que c'est juste une information, mais parfois c'est une vraie information de repos. Donc il va falloir jongler avec tout ça et se dire que en juin, je pense que je peux ressauter. En tout cas, si ça se passe bien, ce serait un bon timing et ça me laisserait 2 mois pour pouvoir sauter de mieux en mieux jusqu'au jeu. Donc pour l'instant, sur le ranking, j'ai l'avantage d'être, on va dire, sélectionné. Maintenant, pour être vraiment sur la liste officielle, il faudra que je sois en forme et que j'ai pu reprendre la perche. Donc ça va être ça le défi.
Oui. Vas-y,
Christophe disait tout à l'heure justement que tu avais toujours autant d'ambition, mais moi je me souviens qu'on s'était parlé juste avant ta blessure. Tu nous disais que tu aimais l'envie de justement l'idée de faire partie des plus gros poissons de la discipline et de viser un podium, hein, c'est les mots que tu avais utilisés. Est-ce qu'aujourd'hui du coup tu as revu forcément tes ambitions à la baisse? Est-ce que une simple qualification aux Jeux Olympiques finalement suffirait à ton bonheur, ou est-ce que tu vises encore de décrocher une médaille?
Alors dans l'immédiat, forcément, l'objectif de juste se qualifier au jeu, c'est forcément le plus gros, et on revoit un peu les objectifs à la baisse en se disant que la médaille, ce sera peut-être pas pour cette année, mais que une sélection, ce serait déjà une très belle histoire et une très belle victoire. Et puis finalement, ça avance assez vite et on se rend compte que finalement la suite, on peut pas trop la connaître, et que un concours reste un concours, que je fais une discipline qui est technique dans laquelle on n'a pas forcément besoin d'être à 300% de ses capacités pour sauter bien. Ou en tout cas pour sauter haut, et puis surtout que un Stade de France plein à domicile avec quelqu'un qui a entre guillemets plus rien à perdre, parce que
ça remplace une jambe presque, c'est ça que tu veux nous dire?
Ça peut remplacer une jambe, et puis quand t'as plus rien à perdre, que t'as pas de pression, parce que là pour le coup je pense que personne m'en voudrait si juste je me sélectionne, ça peut donner des ailes. Donc je pense qu'il faut rien laisser tomber. Là clairement l'objectif principal c'est de me sélectionner, de pouvoir reprendre la perche. Après, une fois que ça s'est fait, si c'est fait, il y a de toute façon jamais de limite à se poser. Hein.
Ouais. Margot, cette mésaventure t'a fait entrer dans le cœur des Français, parce que l'image est passée en boucle sur les chaînes de télévision. On a vu la photo, on a vu ta détresse, ta douleur. Et évidemment, tout le monde s'est pris encore plus d'amitié pour toi. J'imagine que tu as dû recevoir un paquet de messages d'encouragement et que ça file un sacré coup de boost au moral, ce genre de truc aussi, non? De savoir que voilà, les gens sont derrière toi et ont envie de te voir au jeu à Paris.
Ouais, il y a eu un élan de soutien hallucinant. Je m'attendais, alors sachant que je fais ça en direct sur des grosses chaînes de télé, on s'attend à ce que forcément on ait quelques messages en arrivant aux urgences. Mais là, j'avoue que ça a duré pas seulement 48 heures autour du bloc, ça a duré, j'en reçois encore maintenant, et j'ai toujours pas fini de répondre à tous les gens à qui je dois répondre. J'ai des mails, je m'en sors plus. Et
arrêtez d'envoyer des mails à Margot, s'il vous plaît.
Non, continuez, parce que pour le coup, c'est toujours des mails ou des textos sympas, et ça donne, enfin, pour le coup, beaucoup de force. On sent qu'en fait, on n'est pas tout seul dans son canapé à y croire, et que pour une fois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui se dit, allez, on tente le pari, et puis ça marche, et si ça marche pas, tant pis, on la reverra à Los Angeles, quoi.
Ouais, ce serait génial. Une qualification 5 mois après une blessure pareille, ce serait presque.
Non, mais attends, il y a les Jeux de Paris avant Los Angeles, on verra.
Mais oui, mais comme elle dit, elle a rien à perdre.
Exactement, elle a rien à perdre. Et si tout va bien, si la blessure se guérit dans les temps impartis, pourquoi pas. On y croit, même si évidemment ce sera compliqué, mais on sait que tu es une fille de défi, de challenge, Margot, et on va pousser derrière toi, et on va continuer évidemment à suivre ta préparation. On reprendra tes nouvelles. Donc tu dis tu es à Cap-Breton tout le mois d'avril, c'est ça, tout le mois de mai?
Du 17 avril au 9 mai.
Du 17 avril au 9 mai. Eh ben écoute, tu t'appelleras là-bas. Oh, tu seras bien au bord de la mer, tu seras peinard là.
Hein,
tu
vas en béquille, bien. En bottes, dans le sable, ça va être.
Eh ben on te souhaite bon courage et on croise les doigts pour
beaucoup.
Toi. Merci Margot.
Merci
et à très bientôt. Margot Chevrier, ça c'est une warrior. Ça c'est une sacrée warrior. Et franchement, si elle arrive à réussir ce pari, ce serait magnifique. Ça fait déjà partie des belles histoires. Là.
Ça nous rappelle un peu Samir.
Samir, exactement.
Samir sauf que ça s'était passé au JO.
Pendant les Jeux.
Elle, ça se passe 5 mois avant, mais c'est vrai que 5 mois, c'est court. C'est très,
ouais, mais
très
ça,
court.
Ça me fait penser aussi à la mésaventure qui est arrivée cette semaine à Jonas Vingegaard, vainqueur sortant du Tour, qui s'est fracassé, qui est cassé de partout et qui va tenter lui aussi de se remettre en forme pour les Jeux. Ce sera compliqué. Le Tour, c'est dans 4 mois, dans 12 semaines. Et vu l'état de ses blessures, on a du mal à y croire, mais sait-on jamais. C'est vrai que les sportifs, vous n'êtes quand même pas fait du même bois que les autres. 14h36, on continue le magazine olympique avec Sophie Camoun et avec notre nouvelle invitée. C'est vrai que les Jeux sont l'occasion de mettre en lumière, en valeur des sports qui vivent souvent dans le quasi-anonymat, alors qu'ils font les mêmes efforts que n'importe quel athlète de haut niveau. C'est le cas donc du hockey sur gazon, dont les deux équipes de France, tu le disais tout à l'heure Sophie, sont qualifiées pour les Jeux. Une compétition qui sera même une première pour l'équipe féminine, l'équipe de France féminine, qui n'a jamais participé aux Jeux Olympiques. Et on en parle donc avec une pionnière, puisque Emma Ponthieu va donc participer à ses premiers Jeux. Elle sera la première capitaine de l'équipe de France féminine de hockey sur gazon à disputer les Jeux Olympiques. Bonjour Emma.
Bonjour
Emma. Bonjour.
Ça fait quoi d'être une pionnière?
Bonjour. ça fait bizarre de ce mot, mais c'est surtout une fierté, hein, je dirais.
Bah oui, j'imagine une fierté. En même temps, l'occasion aussi de mettre en valeur ton sport. Tu réponds à pas mal d'interviews depuis quelques mois. Il y a des articles qui sont consacrés au hockey sur gazon dans la presse. Ça doit faire du bien de se sentir comme ça mis en valeur. Parce que c'est vrai que le hockey sur gazon jusqu'à présent, c'est quand même pas le truc le plus médiatique au monde, en France en tout cas. Hein.
Non, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un sport qui est peu connu parce qu'il est très peu médiatisé, en tout cas en France. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on en parle de plus en plus. On est sollicité un petit peu de plus en plus par les médias. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a l'impression de enfin mettre en avant notre sport qui mérite d'être connu.
Alors justement, Emma, pour mettre en avant ce sport, il faut être bon. C'est quoi justement l'objectif de cette équipe féminine dans ce tournoi olympique, donc dans quelques mois?
Ben, je pense que l'objectif de l'équipe, ça va être de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes mondiales, parce que c'est vrai qu'on arrive un peu en tant qu'outsider, parce qu'on sera les moins bien classés de ces Jeux Olympiques, mais on espère pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Là, on a récemment joué contre des équipes qui sont très bien classées au ranking mondial, l'Espagne, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, on joue la Belgique là la semaine prochaine, et on se rend compte qu'on arrive à produire du beau jeu, qu'on fait même des résultats contre ces équipes. Donc on espère que pendant les Jeux, on va réussir à rivaliser contre ces équipes. Et je pense aussi, les Jeux Olympiques, c'est un tournoi incroyable. Et sur un match, on sait pas en fait ce qui peut se passer. Donc on n'arrive pas du tout défaitiste. On se dit pas, on va essayer un peu de limiter la casse. Non, pas du tout. Je pense qu'on va prendre un match à la fois. On va essayer de prendre match par match, de produire le meilleur match possible à chaque fois. Et puis après, on verra le résultat à la fin.
Ça se déroule comment le format de la compétition? Il y a une phase de poule et ensuite des phases éliminatoires, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est une phase de poule, donc où nous on va jouer 5 matchs parce que c'est 2 poules de 6. Et après les 4 premières de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale.
Emma, comment on devient hockeyeuse sur gazon en France? Je le disais tout à l'heure, c'est un sport très peu médiatisé. Il faut avoir quelqu'un de sa famille qui a fait du hockey sur gazon, j'imagine. Ça se transmet un peu de génération en génération, non?
Ouais, le plus souvent c'est par la famille. Moi, c'est parce que mon père a fait très longtemps du hockey sur gazon.
D'accord. Et ton grand-père aussi avant?
Surtout par la famille. Non,
c'est ton père qui a été précurseur dans la famille, d'accord.
Et son frère derrière.
Et son frère qui est en équipe de France également.
Ouais.
C'est important pour toi d'être dans un tel environnement. Je suppose que vous devez vous retrouver les week-ends pour parler hockey, pour débriefer des matchs, etc.
Oui, on parle que hockey pratiquement. Bon, pas que ça, mais c'est vrai que les débriefs d'après match ou d'après compétition, ça prend du temps. Mais c'est aussi pour ça que que c'est chouette de pouvoir partager ça avec, que ce soit avec mon frère, que ce soit avec mon père, ou même forcément enfin tous les autres membres de ma famille qui font peut-être pas du hockey, mais qui du coup sont impliqués dedans depuis depuis plus de 20 ans maintenant. Mais oui, c'est un truc de famille et ça fait, c'est au cœur un petit peu de notre quotidien.
T'aurais pu parler de natation. Hein,
t'aurais pu faire de
t'aurais pu faire de la natation aussi, Emma, ben, parce que ta maman a nagé avec Sophie, c'est ça?
Exactement. Ouais, ouais. Ma mère a fait de la natation à haut niveau aussi. Moi, elle a arrêté sa carrière, mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai fait et du hockey et de la natation pendant longtemps. Et à un moment donné où j'ai forcément dû faire un choix parce qu'au niveau des entraînements, etc., ça devenait trop compliqué. Donc, j'ai choisi le hockey, mais j'aurais pu continuer la natation. C'est vrai.
Alors, Emma, aujourd'hui, donc tout est axé sur les Jeux Olympiques. Mais est-ce que en France, on vit un tout petit peu du hockey sur gazon? Je crois que tu es parti jouer en Belgique. Quel est ton statut? C'est un statut semi-professionnel, professionnel ou entièrement amateur?
C'est un statut, je pense que c'est amateur. Après, on peut peut-être considérer ça comme semi-professionnel dans le sens où, par exemple, moi, cette année, je fais que du hockey sur gazon. J'ai mis ma carrière pro, entre parenthèses, pour me consacrer à la préparation olympique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vivre du hockey. Donc, on bénéficie quand même de beaucoup d'aides, que ce soit de la Fédération française de hockey, de l'ANS, etc., pour justement nous aider dans cette année olympique et dans cette préparation qui forcément, demande beaucoup de sacrifices. Mais malheureusement, en France, aujourd'hui, on ne peut pas encore vivre de ce sport.
Sacrifice financier pour toutes tes coéquipières, c'est-à-dire qu'il y en a qui vivent avec 3 francs 6 sous pendant toute cette année pour justement vivre ce rêve olympique. Hein. C'est vraiment très compliqué, on ne le dit pas assez souvent. Évidemment, il y a les stars du sport français qui, elles, eh bien, vivent confortablement, mais il y a d'autres disciplines, dont le hockey sur gazon, qui ne nourrissent pas ni son homme ni sa femme et qui, justement, vous obligent à faire des sacrifices. Je ne sais pas combien tes coéquipières ou toi, vous vivez tous les mois, mais c'est vraiment pas, c'est pas Byzance, quoi.
Hein. Non, puis la différence, moi je rebondis sur ce que dit Christophe, c'est que beaucoup d'athlètes effectivement ont décidé de prendre une année sabbatique, mais c'est pas la même chose quand tu mets tes études entre parenthèses pendant un an et quand tu mets ton job, ton métier, parce que ouais. Toi tu es psychomotricienne en dehors ouais. Des terrains. Forcément, c'est un choix plus difficile quand on a déjà un métier de prendre une année sabbatique pour préparer les Jeux.
Oui, c'est sûr, c'est quelque chose. Ça, c'est à prendre en compte forcément. Moi, ça fait un petit peu plus d'un an du coup que j'ai arrêté mon boulot à côté. Après, je sais que c'était moi un choix personnel parce que en fait, je me suis dit que si je le faisais pas maintenant pour l'année olympique, je le ferais jamais et je voulais un petit peu mettre toutes les chances de mon côté dans la préparation olympique parce que forcément. Avoir un métier, puis s'entraîner pour l'équipe nationale, s'entraîner pour son club à Bruxelles, bah, ça prend énormément de temps. Et donc, mon rythme de vie et mes semaines étaient très chargées. Donc, c'était aussi, moi, un choix personnel. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'on a la chance d'avoir une fédération qui nous aide et qui nous soutient pas mal à ce niveau-là, que ça soit sur le plan financier, sur le plan d'accompagnement socio-pro. On est un petit peu... en fait, chaque fille a un statut particulier et la fédération est quand même pas mal derrière nous avec ça. Donc je pense que sur ce point-là, on a quand même de la chance.
Une dernière question, Emma. Je crois que vous avez même créé avec ton frère et un autre copain hockeyeur une agence pour aider justement les sportifs qui sont un peu pris dans ces difficultés, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est MAME Agency, ça s'appelle.
MAME Agency. C'est
M-A-M-E.
Donc ouais. ça s'adresse à tous les sportifs. Et qu'est-ce que vous... quel est votre cœur d'activité? Donc, qu'est-ce que vous faites?
Ben, c'est surtout mon frère qui a créé ça et qui a un peu mûri le projet parce qu'il a été blessé pendant quelques années, donc il a eu le temps de réfléchir à tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte, on va dire, par rapport à moi et mon statut, que c'était compliqué pour un sportif, et notamment, par exemple, pour des hockeyeurs qui... pour un sport qui est encore peu connu, de, on va dire, de, de gérer l'extra terrain, donc que ça soit pour les contrats avec les clubs, que ça soit pour la recherche de sponsors, la recherche de soutien financier.
D'accord.
Et donc on a décidé de créer ça et surtout c'est quand même surtout lui qui travaille. D'accord. Sur ça, mais pour justement aider et accompagner les sportifs à un petit peu gérer tout l'extra terrain ou l'extra sport pour qu'ils puissent se consacrer vraiment justement à la pratique sportive et essayer d'un peu de se libérer de toutes les charges mentales du à côté.
Et ben voilà une super initiative. Puis, bravo à Théophile, c'est le prénom de ton frère qui lui aussi est en équipe de France.
Ouais, je trouve ça super chouette parce qu'en plus Théophile a monté cette boîte et il le dit aussi, c'est en grande partie pour t'aider parce que lui il arrive à sa fin de carrière mais toi tu as envie de continuer encore à jouer et il y a vraiment cette volonté de la part de ton grand frère de t'aider justement.
Ouais. Ouais.
Mais Emma, on va te souhaiter plein de bonnes choses évidemment pour ces Jeux Olympiques. T'es pas encore
Merci
tout à fait
beaucoup.
Sûr d'y participer parce que la liste. Enfin, je veux dire, si on met pas la capitaine dans la liste, alors là, c'est n'a rien comprendre. Mais bon, c'est pas encore officiel.
Mais surtout, prends soin de toi, ne te blesse pas.
Exactement.
Et que tout se passe bien jusqu'au mois de juillet.
Exactement. Prends pas de coups de crosse hein, dans les mollets, ça peut faire mal. Merci Emma et bonne chance et bon parcours avec l'équipe de France. On viendra
Merci
vous voir avec RMC pour voir comment ça se passe. Emma Ponthieu, donc capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon et non pas sur glace, hein, c'est la saison du gazon et
tu
pas
sais que ça
de la glace.
Ça va être chaud parce que le premier match, le match d'ouverture, c'est contre les Pays-Bas qui sont championnes, elles sont championnes olympiques en titre. C'est un peu, si tu veux, le joueur de tennis qui tombe sur Nadal au premier tour de Roland-Garros. Quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir, ça va être un match d'ouverture hyper intense tout de suite.
Il nous reste quelques minutes pour ouvrir notre journal olympique avec aujourd'hui Anthony Resch qui s'y colle. Salut Anthony.
Salut Christophe, salut Sophie.
Toute l'actualité olympique de la semaine et évidemment on s'approche des Jeux et l'actualité de plus en plus imposante. Alors voilà quelque chose qui va ravir Sophie. L'inauguration du centre aquatique olympique qui fuit d'ailleurs déjà hein, pour le premier jour.
Oh non.
Il a fui. Ou alors il y a aussi des plongeurs qui se ratent devant le président de la République. Ça a été une belle réussite cette ouverture du CAO. Oui, Anthony, raconte-nous à quoi ça va ressembler.
C'était jeudi, Christophe, cette inauguration du centre aquatique olympique du côté de Saint-Denis, où se tiendront notamment les épreuves de water-polo, de natation artistique et de plongeon. C'est là, c'est le seul site pérenne construit pour les Jeux Olympiques, Julien Richard.
Oui, ces architectes l'appellent le cocon de bois construit en face du Stade de France, le CAO pour centre aquatique olympique. Donc une charpente en bois concave de 90 mètres, c'est unique au monde. Première fois qu'on utilise ce système sur une si grande portée. Toiture équipée de 5000 mètres de panneaux carrés de panneaux solaires. Le bâtiment fait 111 mètres de long, 30 de haut, 175 millions d'euros de budget. Le décompte et l'inauguration par le président de la République, Emmanuel Macron.
Et on va accueillir le monde dans ce lieu totalement nouveau et qui a été pensé avec audace, construit de manière inédite. C'est une première mondiale et je félicite nos architectes, nos entreprises et les milliers de compagnons, de collaborateurs qui y ont participé. Et vous l'avez fait en tenant les coûts et les délais, et j'en remercie l'ensemble des responsables.
5000 spectateurs hein, pendant les Jeux, 2500 après les JO, héritage important pour le département de Seine-Saint-Denis, où un enfant sur deux ne sait pas nager à l'entrée en 6e, donc c'est énorme. 5 euros l'entrée pour les adultes, 3 pour les enfants, ouvert au grand public. On va patienter un peu jusqu'en juin 2025, et puis ce bassin accueillera les championnats d'Europe en 2026, deviendra le centre d'entraînement aussi pour le plongeon. Voilà, c'est un moment important aussi pour les plongeurs.
Sous le ciel de Paris jusqu'au soir.
Et on a eu un show pour l'inauguration.
Edith.
Avec l'équipe de France de natation artistique qui a nagé sur du Edith Piaf. Transition trouvée pour parler d'Ayak Nakamura, le président. Emmanuel Macron a évidemment balayé un peu toutes les polémiques du moment. Ayak Nakamura qui a donc sa place, a-t-il dit, à la cérémonie d'ouverture. Sinon, on verra plus tard. C'était une ancienne nageuse. Et plus sérieusement, sur la sécurité de la cérémonie d'ouverture, sur la scène face aux menaces terroristes et ses fameux plans B, C ou D peut-être.
Nous préparons plusieurs scénarios, comme je l'ai déjà dit en décembre. Si la menace devait évoluer, si on considérait que les circonstances imposées, nous avons des scénarios de repli. Mais le scénario privilégié, celui que nous préparons, celui que nous assumons, celui que nous voulons, c'est évidemment celui qui a été prévu. Et donc, nous serons prêts.
Et Julien, l'image qu'on va retenir au-delà de cette inauguration, évidemment, c'est cette chute du plongeur français Alexis Jandard.
J'ai glissé, chef.
Oui, Alexis Jeandard, vice-champion du monde duo mixte en 2022. Médaillé de bronze avec Jules Bouillet à Fukuoka l'été dernier au 3m5 synchro. Chance de médaille hein, pour les JO de cet été, évidemment, qui a chuté. Chute assez spectaculaire pendant le show. Il s'est pris la planche dans le dos avant de tomber dans l'eau. Plus de peur que de mal. Mais sa chute est devenue virale. Lui, il a préféré en rigoler.
Sachez une chose, c'est que j'ai glissé. Non, j'ai pas glissé, mais j'ai une petite faiblesse sur la jambe. Ça m'a fait chuter. J'ai chuté devant le président. J'ai chuté devant la France entière. Je reçois des messages, c'est pas possible. Déjà, je tiens à rassurer tout le monde. Tout va bien. Je me suis pas fait mal. Il y avait un peu de sang, mais c'est pas grave. Puis amusez-vous. Hein, c'est le moment de me vanner parce que là, franchement, je mérite de ouf.
Médaille d'or de l'autodérision.
Super sympa, franchement.
Il est venu en plateau ici.
Ah non, énorme, énorme.
Je pense que c'est une très bonne façon de sortir.
Ah ouais. Vraiment, il s'en sort avec les honneurs de cette gamelle qui effectivement est un peu ridicule. Mais le prendre comme ça, franchement,
c'est. Et lui disait qu'à l'entraînement, ça leur arrivait très souvent de prendre des gamelles comme ça. Mais là, c'est vrai, la prendre ce jour-là devant le président, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais au moins, ça fait parler du plongeon.
Ah exactement.
Si on est obligé de se casser la gueule devant le président de la République.
On en avait parlé de plongeon avec un plongeur au vol.
Ouais. Mais c'est une discipline magnifique. Une discipline magnifique. On n'a pas ramené de médaille depuis 1952 en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures. Alors moi, je suis contente de voir cette belle fosse à plongeon à Saint-Denis. Et quand on parle d'héritage, eh ben, j'espère que voilà, il y aura l'agglomération pourra travailler avec la fédération pour trouver les bons éducateurs et développer la pratique du plongeon. C'est important pour nous tous.
Très bien. On connaît de nouveaux qualifiés pour les Jeux Olympiques, Anthony, notamment en judo où la bataille entre Chemeo et Malonga semble avoir. Trouver celle qui sera qualifiée quoi. Oui, mais c'est pas encore tout à fait officiel.
Exactement, c'est ça. Un peu compliqué. La victoire notamment de Madeleine Malonga, vous vous en souvenez au tournoi d'Antalya, et bien la Fédération française de judo a enfin tranché et délibéré et a transmis une proposition au CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, en faveur de Madeleine Malonga, et maintenant reste à charge au CNOSF, sauf, on va dire, grand revirement de situation, de valider cette proposition. Donc Madeleine Malonga qui représentera la France a priori dans la catégorie des moins de 78 kilos.
C'est très compliqué parce que pour d'autres concurrentes, ils n'ont pas demandé l'avis du CNOSF, ils ont entériné la décision. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Un deuxième qualifié accompagnera la tête d'affiche de la lutte française, qui est évidemment Kumba Larocq, à Paris cet été.
Oui, depuis hier a lieu le premier TQO, ce tournoi de qualification olympique de lutte du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Il fallait aller en finale pour décrocher le précieux sésame pour Paris. Et mission accomplie pour Mamad Assassi, là, en moins de 67 kilos.
Cette opportunité s'est offerte à moi. Comme je l'ai dit, je ne pensais pas que j'allais faire les tournois de qualification olympique. Je suis venu ici dans le plus grand des calmes. Je savais que j'allais me qualifier. Je me le disais bien avant. Je pensais au deuxième tournoi, mais voilà, c'est le premier tournoi qui s'est offert à moi. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis content.
Et si Mamad Assassi là s'est qualifié hein, pour ce tournoi, lors de ce tournoi pour les Jeux Olympiques, c'est parce que celui qui à la base devait représenter la France dans cette catégorie des moins de 67 kilos a refusé de se rendre à Bakou, d'origine arménienne. Gagik Snyoyan a refusé de participer au tournoi comme les lutteurs arméniens ou d'autres lutteurs d'origine arménienne à cause de la guerre qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 40 ans.
Voilà, c'est sur la demande de sa famille qui avait très très peur pour lui, et bien qu'il a renoncé à participer à ce tournoi et donc renoncer quelque part à se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est terrible hein, ce qui est arrivé à ce jeune lutteur, donc Gagik Snyoyan. On espère évidemment qu'il retrouvera d'autres compétitions pour briller. On connaît un nouveau candidat officiel pour non pas pour la présidentielle mais pour le titre de porte-drapeau.
C'est presque pareil.
Ah ouais, ils sont tous entrés en campagne là, ça y est, votez pour moi.
Erwin Ngapet, le volleyeur et le deuxième athlète masculin à se positionner officiellement et clairement, le champion olympique de Tokyo avec les Bleus s'est déclaré candidat cette semaine pour être porte-drapeau de la délégation française lors de la fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Tu postules
bon
pas,
candidat, Sophie ? Bon candidat, Erwin Ngapet. Est-ce qu'il y a déjà eu des volleyeurs porte-drapeau au JO ?
Il y a eu... Non, je crois pas. Bah non, mais c'est la première fois qu'il remporte un titre olympique. Hein.
Bah, enfin, t'as pas besoin d'être champion olympique non plus pour être porte-drapeau.
Vrai, mais
il faut avoir fait les Jeux.
Ça aide quand même. Merci Anthony, Julien et merci Sophie.
Merci à toi.
Ça y est, Sophie, elle part en vacances là.
Non, c'est pas des vacances. On se retrouve pour le J-100 le 17 avril.
Donc, très bien. Part en vacances que 17 avril. Ok, vous avez compris. Si vous cherchez à la joindre, elle sera au bord de la piscine ou au bord de la plage.